Donc aujourd'hui, on va parler d'un pays où coule le lait et le miel. Vous avez déjà entendu parler de ça. Ben, vous allez voir, c'est un peu étonnant, parce que c'est pas forcément ce qu'on pense. Voilà. Alors, il y a des versets assez longs, mais il va falloir quand même les étudier. Et parce que l'Éternel a fait une promesse à Moïse, il a dit, concernant le peuple hébreu, de lui donner un pays où coule le lait et le miel. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, on va commencer par étudier le verset Exode 3:8. Et voilà. Alors ça commence par un vav avec un alon, aleph avec un tséré, c'est-à-dire un et bref, aresh avec un et bref également, et un dalet. Alors ça, vous le lisez comment? Vaheched, red même. On roule les airs quand c'est un resh. Hein. Et ça, c'est le verbe yarad. Yarad, dont le sens est descendre, s'abattre, abaisser, transporter, porter, apporter, tomber, s'éloigner, ôter, démonter, présenter, succomber. Pouf. Alors ici, c'est à la forme pâle, donc active, à l'inaccompli, première personne du singulier, mais il y a un vav inversif devant. Donc c'est de l'accompli. Et ça se traduit « et je suis descendu ». Hein? On peut le traduire comme ça. Ensuite, on avait un lamed. On a un lamed avec un sheva, un he avec un abref, un tsadi. Avec un dagesh dedans, et puis un i long, un lamed de nouveau et un o. Alors, ça, il faut le lire. Les. Léatsilo, Léatsilo. Alors, d'après vous, bon, c'est un peu compliqué, mais quelle serait la racine de ce mot? Les trois lettres qui formeraient la racine. Il y a vraiment des pièges, hein, dans ce mot. Parce qu'on pourrait croire que le et qui est là, avec un abref et le dagesh là, ça ressemble à un article. Hein? Eh ben non. Non, là c'est une forme de conjugaison d'un verbe qu'on appelle ifil et qui est faire l'action. Hein, c'est pour faire l'action. Donc le et qui est là, c'est quelque chose qui montre la conjugaison ifil. Donc vous voyez, si on n'a pas un peu l'habitude, et puis parce que les conjugaisons, c'est quand même pas si évident, hein. Et ben on pourrait prendre ça pour un article. Bon, alors, quelle serait la racine? Alors, vous avez le tsadi. Et le lamed. Mais voyez le point qui est là dans le tzaddi. Ça, ça rappelle le souvenir d'une lettre qui a disparu. Et la lettre qui a disparu, c'est un noun. Alors, donc, la racine, c'est natsa, natsal, qui veut dire délivrer, sauver, protéger, se réfugier, etc. Donc, en fait, ce que dit le verset, c'est « Et je suis descendu pour le délivrer. » Ensuite, on a un même avec un « i » long, avec un « dagesh » dedans, et un « a » bref et un « dalet ». Alors ça, c'est facile à lire. Mi, mi-yad. Alors, mi-yad, vous voyez que ici, ça on l'a déjà dit plusieurs fois, il y a un mi et une lettre ici qui fait le noun qui est parti. Min. Min, c'est depuis. Hein? Depuis, et il reste yad. Et yad, c'est quoi? Yad, c'est une main. Alors, on traduit, et je suis descendu pour le délivrer de la main. Et en fait, c'est attaché au mot suivant, de la main des, et vous connaissez ici, un même avec un i bref, un tzadi avec un sheva, un resh avec un a bref, un i long, plutôt un yod avec un i bref et un même final. Et que vous connaissez ça. Mitzrayim. Mitzrayim, c'est l'Égypte. Donc, délivré de l'Égypte, de la main de l'Égypte, maintenant, on continue. Un ou, un lamed avec un sheva, un e avec un a bref, ein avec un sheva coloré en a, un lamed avec un ou bref, un tav avec un O long. Alors ça, c'est un mot assez long que vous allez lire. Alors, ça, c'est un ou. Oul. A. A. Loto. Oul. Haha. Loto. Drôle de mot, hein? Alors, à votre avis, bon, le ou, c'est un e, d'accord? Le he, ici, avec un a bref, est-ce que c'est un article? C'est le même piège que tout à l'heure. C'est la conjugaison au « ifil ». Donc faire faire l'action. Alors, à votre avis, quelle est la racine? C'est un verbe. Alors, tout à l'heure, où il file, bon, on met à part le « ou » qui est là. Où il file, on a ça ici, ces deux lettres-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qui nous reste? « Ein », « Lamed » et « tout », c'est pour te faire sortir quelque chose, hein, pour te faire monter ou te faire quelque chose. Donc, il en reste deux, il m'en manque une. Ben c'est un « et » qui est tombé, donc c'est le verbe « Allah ». Non, pas « Allah ». Allah. Allah, ça veut dire « élever, monter, remonter, se lever », c'est l'aurore aussi. Donc, en fait, là, la traduction, puisque c'est du « ifil », c'est « et pour faire monter ». Donc, il est descendu, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter alors, ensuite, on a un min en toutes lettres. De temps en temps, on en a comme ça. Donc, depuis... Ici, on a un « et » avec un « a » long. Aleph. Avec un « a » long. Resh. Avec un « ségol ». Et un « tsadi » final. Alors. Min. Ah, arrête. D'accord? Alors, le A qui est devant là, min, ça veut dire depuis. Le he avec un A long, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est une conjugaison? Est-ce que c'est l'article là? Et pourquoi j'ai un A long? Parce que je vous rappelle que l'article, c'est un « et » avec un « a » bref et un « dagesh » ici. Mais comme on n'a pas le droit de mettre un « dagesh » dans un « aleph », on allonge le « a ». Voilà. Donc là, c'est un article. Et « a » arrête, c'est « la terre ». On aurait pu avoir aéret, mais c'est du point de vue conjugaison, ça se dit aaret. Donc la terre, ou on peut traduire aussi depuis la terre, hors du pays, parce que eret c'est un pays, hors du pays. Alors là, c'est un hébraïsme. Un « et » avec un « a » bref. Tiens, c'est bizarre, il y a un « i » bref. Un « et » avec un « i » bref. Un « vav » et « aleph ». Alors ça, c'est un petit mot utile, « aïv » ou « aouv », on trouve quelquefois aussi, « aouv », c'est celui-là, ce pays. Alors, je lis depuis le début. je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter hors du pays celui-là, donc le pays Mitzrayim, celui-là, Aleph avec un ségol et Lamed a tiré et le mot Eret. Alors, vous lisez El Eret. Quel est le sens? Alors, Eretz, c'est facile, ça veut dire terre ou pays. Mais elle, ici, ça veut dire quoi? Parce que elle, ça peut être Dieu, mais ça peut être autre chose. Alors, je vous rappelle, quand vous avez elle avec un « et » bref, un « tiré », ça, c'est Dieu. Mais quand c'est un ségol comme ça, ça veut dire vert. Alors, vous voyez que si on a une Bible sans les voyelles, bon courage pour la traduction. Et c'est comme ça qu'on se plante. Et il faut vraiment avoir les voyelles ou avoir un rabbin pour nous traduire. Hein? Alors, vers un pays, parce qu'il n'y a pas d'article là, hein? Donc c'est un pays, on ne sait pas lequel. Un tête avec un haut. Un bête avec un allon et un « et ». Ça, c'est un mot que vous connaissez. Vous lisez ça comment ?« Tova ». Ça veut dire quoi ?« Beau », »,« bon ». Tov, Tov, je vous rappelle, ça peut aussi prendre le sens de complet. Il y a tout ce qu'il faut. Hein, d'accord ? Donc, vers un pays bon, ensuite on a un ou avec un resh et un sheva, un chet avec un allon, un bête avec un allon et un hé. Donc, ce pays, il est bon ou chava, ou chava, ou chava. Et quelque chose qui est réava. C'est pas délicieux. Quelle serait la racine? À votre avis? Vous avez les trois lettres du centre là. Resh, Chet, Bet. Ra, Rahav. Il faut le dire. Hein. Alors, ça veut dire large, vaste, étendu, spacieux. C'est curieux que Dieu dise ça. Parce qu'il dit, c'est un pays bon et spacieux. Vous avez déjà vu la terre d'Israël, c'est grand ? Pourquoi il dit spacieux ? Ben parce que normalement, ça va du Nil à l'Euphrate. Et voilà. Et là, du Nil à l'Euphrate, ça vaut le coup. On n'y est pas encore, du Nil à l'Euphrate, mais vous inquiétez pas, ça va venir. C'est juste une question de temps. Alors, ensuite, je ne vais pas le remettre, mais on retrouve El Eretz. Donc, c'est une répétition vers un pays. Et là, il le définit avec un Zayn, un Alon, un Bet avec un Abref et un Tav. On lit ça, Zavat. C'est pas des Savates, hein? Zavat. Zavat, c'est quoi? Alors, la racine de ce mot, c'est Zouv. Zouv, qui veut dire couler, avoir un flux, fondre. Jaillissement, ruisselé. Donc, ici, c'est un pays qui est bon et large vers un pays ruisselant, ruisselant de quelque chose. Alors, le mot qui suit, c'est un chet avec un alon, un lamed avec un alon et un bet. Ruisselant de chalav. Chalav, c'est du lait, du fromage, du petit lait. C'est ce qui est quelque chose qui est blanc comme du lait. Donc on va voir que quand le Seigneur dit ruisselant de lait et de miel, c'est pas forcément du lait. Et on va le voir. Alors, ensuite, on a Dalet. Avec un Sheva, un Bet avec un Alon et un Shin. Alors, Oud vache. C'est pas du lait de vache, non. Le ou, ça veut dire et. Donc des vaches, ben c'est du miel. C'est du miel. Ensuite, on a L, donc Aleph avec un Sheva, pardon, avec un Ségol. La Med, elle, un tiré et un même avec un Sheva, un coffre avec un haut long et un même final. Alors, le L, là, ça veut dire quoi, le L? Là, ça veut dire vert. Et là, vous lisez quoi? Mécom. Mécom, c'est la même chose que macom. Et macom, on en avait parlé la fois dernière. Macom, c'était un des noms de Dieu. Mais en réalité, ça veut dire un lieu. Vers un lieu, et là, il fait toute une description, parce que c'est là qu'on va voir de quel pays il s'agit. Alors, là on a plusieurs mots qui se suivent. Alors le premier c'est un « et » avec un « a » bref, un « kaf » avec un « dagesh » et un « ségol », un « ségol », un « nun » avec un « a » bref, « ein » avec un « ségol » coloré en « a », un nun et un yod. Donc un nun et un i long. Alors, c'est quoi d'après vous ça? Comment on lit ça? Ak na ani. Aknaani. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, en fait, Kenaani, si je retire, parce que là vous avez l'article évidemment, Kenaani. C'est les Cananéens. Ah ouais. Je vois pas comment, pourquoi on les appelle Cananéens. Kenani. Le suivant. Un vav avec un cheva. Un E avec un A long. Aleph avec un ségol coloré en E. Excusez-moi, je me suis trompé. C'était pour voir. Hein. Un Chet avec un I. Un tav avec un i long et un dagesh. Alors, vous lisez comment? V A Riti. V'ahriti. C'est qui cela? Souvenez-vous des peuples qui étaient dans le coin là?
Les Éviens?
Non. Hein? Il y en a qui ont fait un petit peu d'archéologie là, non? Histoire ancienne. Les Hittites. Les Hittites. Ça a été toute une civilisation, les Hittites. Donc, vers le lieu, le Cananéen, et le hittite. Le suivant. Comment? Oui. Un vav avec un sheva, un he avec un alon, aleph avec un sheva coloré en ségol, donc en he, un mem avec un o bref, un resh et un ilon. Alors, qui c'est cela? V, A et Mori, les Amoréens. Ah oui, c'est... Dieu est en train de décrire tous les peuples qui étaient sur place. Le suivant. Un vav avec un sheva, un he avec un a bref, un p avec un dagesh dedans, un resh avec un i bref, un zayin avec un dagesh et un ilon. J'ai oublié ici un sheva sous le p. Alors. Comment on prononce? V, A, P. Là, on le prononce parce qu'il y a un dagesh. V, A, P, R, I, Z. V, A, P, R, I, Z. Alors, c'est qui cela? Les Phérésiens. Le Phérésien. C'est au singulier. On continue. Vav avec un sheva, un e avec un a bref, un chet avec un i bref, un vav avec un dagesh et un i long. Faites attention, c'est pas un ou. Hein, ça, parce qu'il a un article, donc c'est pas un ou. Là, on lit Véarivi. Véarivi. Alors, Véarivi, c'est qui? Le Évien. Et puis alors, il en resta un vav avec un sheva, un het avec un a bref, un yod avec un sheva, un bet avec un ou. Et à sa mère avec un ilon. Je vous laisse lire. V A Y. Vous, si. Veaïevoussi. C'est qui cela? Les Jébusiens. Ils s'étaient installés où, les Jébusiens? À Jébu. À Jébu. Alors, c'est intéressant tout ça. Ça nous invite à aller voir les généalogies. Parce que d'où ils sortent tous ces gens-là? Alors, je vous lis ici dans Genèse 10, versets 6 à 20. Les fils de Cham, en fait c'est Ham, hein, fils de Cham, Cush. Je rappelle que l'épouse de Moïse était une Cushite. Alors, comme c'est très mal vu de dire Cushite, on dit une belle femme noire, et donc c'est, on prend le terme, comment c'est dit dans la Bible, c'est un pays. L'Éthiopie, une Éthiopienne. Mais parce que ça veut dire noir en fait. Mais en réalité, en hébreu, c'est Cushite. Donc vous voyez que sa femme, elle descendait de Ham, de Cham. C'est marrant hein, quand même. Et c'est pareil, Joseph, quand il était en Égypte, il a pris une femme égyptienne. Vous voyez les mélanges qui se sont faits au fil des siècles comme ça. C'est très curieux. Donc, les fils de Cham, il y en a quatre. Il y a Cush, Mitzrayim, Put. On sait très peu de choses sur Put. Sauf que souvent, il faisait la guerre. Et Canaan. Le quatrième, c'est Canaan. Et c'est Canaan qui a été maudit. C'est vrai, hein? Pourquoi? Ben certainement qu'il était là quand les choses se sont passées et qu'il a participé. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de raison de maudire le fils quand c'est le père qui fait. Vous voyez? Donc, les fils de Cush. Donc le premier, Cush. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu comme fils Saba, Avila, Sabta, Raema et Sabteka. Les fils de Raema, Seba est dedans. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commence à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il règne d'abord à Babel, Érec, Akkad et Kéné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sont sortis Assur, il bâtit Ninive, Réoboth, Kalash et Rézène entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Vous voyez, c'est l'écriture ça. Donc vous voyez ce qu'ils ont fait ces gens-là. Hein? Ça c'est donc le fils aîné avec Nimrod. Mitzrayim engendra les Loudim, les Anamim, les Léabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Kalushim, d'où sont sortis les Philistins et les Kaphtorim. Donc les Philistins dont on entend tout le temps parler, ils viennent de Mitzrayim. Canaan maintenant. Canaan engendra Sidon. Tiré Sidon. Hein? Son premier-né est Heth, les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Héviens, les Archiens, les Siniens, les Avradiens, les Tsémariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guéra, jusqu'à Gaja, et du côté de Sodome et Gomorre, d'Adma et de Tseboïm, jusqu'à Léchan. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Ça vous donne une idée, vous voyez, où ils habitaient, même jusqu'à Sodome, etc. Alors, vous savez qu'à la mort de Josué, les anciens qui avaient vécu dans le désert, ils étaient morts. C'était toute une nouvelle génération, et cette nouvelle génération, elle n'était pas très obéissante à la mort de Josué. Ça a commencé le livre des Juges. Donc, comme ils n'étaient pas très obéissants, Dieu a décidé de laisser des peuples pour qu'ils apprennent à se battre. Eh oui. Et donc des peuples pour les enquiquiner, c'est le cas de le dire, pour qu'ils apprennent à obéir. Et vous voyez que le livre des Juges, c'est uniquement ça. Où quand ils désobéissent, il y a des peuples qui sont là sur place et qui vont leur faire des misères sans arrêt pendant 30, 40 ans, etc. Donc voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Donc vous voyez, c'est la génération après la conquête. Alors ces nations étaient les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitent la montagne du Liban. Depuis la montagne, etc. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, et ils donnèrent leurs fils, leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. C'est toujours comme ça. Alors, ce qui s'est produit dans le désert, puisque Dieu a fait la promesse d'un pays où coule le lait et le miel, dans le désert, il y a eu une révolte. Il y en a eu plusieurs, des révoltes. Mais il y en a une en particulier qui est connue, qui est la révolte de Corée, que vous connaissez bien. Alors, on va parler de Corée. Mais est-ce que vous savez qui est exactement Corée ? Alors, déjà, Moïse, Moshé, il descendait de quelle tribu ? Des Lévites. Dans les Lévites, vous aviez plusieurs familles. Et il y avait la famille des Kéatites. Les Kéatites, ça vous dit quelque chose ? Les Kéatites dans le désert, ils devaient faire quoi ? Ils devaient emballer, mais quoi exactement ? Emballer et porter. Le lieu très saint. Donc vous imaginez, c'était ce qu'il y avait de plus précieux. Alors, c'est même pas eux qui emballaient, hein, c'était les sacrificateurs qui entouraient le tabernacle, etc. Enfin, tous les objets précieux, ne pouvaient pas le toucher. Et eux, ils portaient. Donc, les Kéatites. Eh bien, Moïse, Moshé, il descend des Kéatites. Et il a un cousin qui est le chef des Kéatites. C'est Corée. C'est pas rien, hein. C'est son cousin, tout simplement. Et il est le chef de ceux qui portent le lieu très saint. Alors vous savez qu'ils vont se révolter. Et ils vont disparaître, puisque la terre va s'ouvrir, vont disparaître à 150, quelque chose comme ça, avec tous ceux qui l'ont entraîné. Et le lendemain de sa disparition, donc la terre s'est refermée sur eux, hein, ils sont morts vivants. Hein. Le lendemain, le peuple s'est révolté contre Moïse. Le lendemain. Et il y a eu une plaie qui a fait plus de 14 000 morts. Vous voyez la situation? Et la parole nous dit que les fils de Corée ne sont pas morts. Parce que les fils de Corée ne se sont pas associés à leur père. Donc ils n'ont pas été condamnés, ils ne sont pas morts. Alors, je vais vous poser une question. Il y a un prophète, dans tous les prophètes de la Bible, vous les connaissez, qui descend des fils de Corée, qui descend de Corée. Est-ce que vous savez qui? Un grand prophète. Hein?
Ézéchiel?
Non. C'est Samuel. Samuel, c'était un lévite, évidemment. Hein? Il descendait d'un des trois fils de Corée. Donc vous voyez que dans une famille où il y a un qui s'est révolté, des générations plus tard, vous avez là un homme extraordinaire. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Regardez, si ça vous intéresse, vous allez sur Wikipédia, vous mettez Samuel, et vous allez avoir toute sa généalogie. Alors, ça fait une page, hein, je vous le montre. Et c'est là qu'avec tous les versets, hein, vous avez toute la généalogie jusqu'à Samuel. Et puis après, vous avez sa descendance. C'est intéressant parce qu'il avait deux fils, Samuel, qui ont mal tourné, je vous le rappelle. Ils étaient sacrificateurs, ils faisaient n'importe quoi. Ils ont mal tourné. Et c'est justement parce qu'ils faisaient n'importe quoi que le peuple a demandé un roi. Vous vous rappelez de ça? Eh bien, dans la descendance de ses fils, et notamment d'un d'entre eux, il y a un personnage important. Non. Alors Samuel était donc le grand-père d'un homme qui s'appelait Éman, qui était ministre de la musique sous le roi David. Vous voyez la famille de Corée? Et c'est marrant parce qu'on dit fils de Corée, on prend toujours le nom de celui qui a fait mal. C'est bizarre hein, quand même. Mais ça permet en même temps de se souvenir. Mais vous voyez, ça a donné du bon et du mauvais. Alors, je vous signale que ce Éman, ministre de la musique, c'est lui qui a écrit le psaume 88. Mais les fils de Corée étaient des chanteurs, donc ils s'occupaient de la musique. Et il y avait une autre chose aussi. Du temps de David, les fils de Corée étaient non seulement pour la louange, mais ils étaient aussi gardiens des portes. Donc vous vous rendez compte, le retournement de situation en un paquet de générations, évidemment. Mais c'est absolument extraordinaire. Donc ici, vous avez les psaumes de 42 à 49, écrits par les fils de Corée. Et puis le 84, 85, 87, 88, écrit par les fils de Corée. Alors, j'aimerais bien vous en lire un petit bout. Comme ça, parce que vous allez les reconnaître. Je ne vais pas lire tout, mais dans le psaume 47, par exemple. Le psaume 47, écrit par les fils de Corée, un passage qui dit à partir du verset 5, car voici, les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble, ils ont regardé tout stupéfait, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Les uns, là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Voilà ce qu'ils ont écrit. C'était quand même les descendants de quelqu'un qui s'était révolté. C'était aussi des prophètes, parce que si vous prenez le psaume 87, on lit « Elle est fondée sur la montagne sainte, l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur moi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte, Babylone, parmi ceux qui me connaissent. » Et voici des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés, et de Sion il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé, l'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés, et ceux qui chantent, ceux qui dansent, s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Vous voyez, c'est prophétique, hein. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. C'est le psaume 84. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, trouvent un chemin dans leur cœur tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. C'est les fils de Corée, tout ça. C'est beau, non? Voilà. Donc, quel était l'objet de sa révolte? Eh bien, Dieu a promis de donner un pays où coule le lait et le miel. Quel est l'objet de la révolte de Corée? Vous allez voir. Donc, on prend Nombre 16, 13 et 14. Je ne sais pas si on aura le temps de voir tout, mais on va au moins commencer. Alors, ça commence par un « et » avec un « a » bref, un « même » avec un « sheva », « ein » avec un « a » bref, et un « tête ». Alors, on lit ce petit mot. Am-at. Ça va? On n'entend pas le Sheva. Am-at. D'après vous, le A qui est devant, le E avec un A bref, est-ce que c'est un article? Qu'est-ce qu'on aurait si c'était un article? On aurait un dagesh dans le même. Il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ce A-là? Je vous le dis, ce n'est pas de la conjugaison. C'est encore autre chose. C'est ce qu'on appelle le « et » interrogatif. C'est une question. Alors, ma'at, la racine du mot, parce qu'il y a la question, c'est le « et » devant. D'accord ? Point d'interrogation, si vous voulez. Et ma'at, c'est un mot qui veut dire « petitesse », « peu », « en petit nombre »,« trop petit »,« juste »,« à peine ». Autrement dit, ce petit mot-là, il veut dire « est-ce peu ?» Est-ce que c'est peu ? Hein ? Donc c'est Corée qui parle, hein ? Attention, hein ? Suivi d'un kof, d'un kaf, pardon, avec un dagesh et un i long. Alors ça, qui, ça veut dire car, que, ça peut vouloir dire... Bon, ici c'est que. Et le mot suivant... Un « et » avec un « ségol », ein » avec un « sheva » coloré en « ségol », lamed » avec un « i » long, tav » avec un « a » long, un « nun » et un « ou ». Alors, on lit ce mot, A-E-L-I-T-A-N-U, ça va ? A-E-L-I-T-A-N-U, E-E-L-I-T-A-N-U, pardon, c'est un E là, E-E-L-I-T-A-N-U, qui se traduit par que tu nous aies fait. Alors, le que, c'est qui ? Que tu nous aies fait monter, est-ce peu que tu nous aies fait monter, le mot suivant, vous avez un même avec un i bref. Pardon, c'est un et bref. Aleph, avec un ségol. Resh, avec un ségol. Tzadi final. Est-ce peu que tu nous aies fait monter? Alors ici, vous reconnaissez, donc, mais eret, hein, le même devant, c'est quoi ? Regardez. Min. Ça, c'est min. Donc, si je retire le nun, il reste un point. Mais comme je n'ai pas le droit de mettre un point dans le Aleph, ça devient un E. C'est comme ça que ça se fait. Il faut prendre l'habitude de ça. Donc, ça veut dire depuis un pays, tu nous as fait monter. Depuis un pays, et regardez ce qu'il dit. Alors, Zayn avec un allon. Bet avec un A bref. Tav. Ça, c'est un petit mot qu'on a vu tout à l'heure. Ruisselant. Il parle de l'Égypte, hein. Il parle de Mitzrayim. Tu nous as fait monter de l'Égypte, un pays ruisselant. Alors, ruisselant de avec un allon, un lamed avec un allon et un bet. Et je mets le mot suivant parce que ça va ensemble. Un ou, un dalet avec un sheva, un bet avec un a bref. Et à Chine. Et voilà. Donc ça révolte en fait. Hein, un pays, tu nous as fait monter d'un pays, ruisselant de lait et miel. Il considère que Mitzrayim, qui était un pays d'esclavage, c'était un pays de lait et de miel. Donc, il inverse tout. Et finalement, c'est équivalent à la révolte de ceux qui ont visité le pays et qui n'ont pas voulu rentrer. Je vous rappelle que ça leur a rajouté 38 ans, 39 ans de tourne en rond. C'est-à-dire la génération complète qui a tourné en rond toute sa vie. Une vie qui tourne en rond. Parce qu'il n'y a pas eu obéissance. On n'est pas rentré dans ce qui était l'appel de Dieu. Donc la vie tourne en rond. Toute sa vie, ils sont morts dans le désert. Il faut le faire quand même. Ce sont les enfants qui sont rentrés dans le pays promis. Alors les enfants, ils ont fait la conquête, et les petits-enfants, ils ont commencé à désobéir, donc on leur a laissé cinq peuples pour les enquiquiner. Le transfert de génération en génération, c'est ce qu'il y a de plus important. Malheureusement, ça se fait de plus en plus mal. Mais c'est comme ça. Alors, pourquoi tu nous as fait sortir du pays où il coule du lait et du miel? Il faut croire qu'il y avait une belle place, lui, parce que... Hein? c'est pas lui qui creusait la paille et la terre et la boue et tout le bazar, hein, je crois. Et le mot suivant, c'est un lamed, avec un a bref, un e avec un Sheva coloré en A, un même avec un I long, un Tav avec un Tseré, donc un E bref, un Nun et un Ou. La Hamit et nous. La Hamit et nous. Alors, c'est terrible ça, ce mot-là. La Hamit et nous, la racine, c'est le verbe mout. Et ça donne quelqu'un de met. Met mout. Ça vous dit quelque chose ou pas? Si tu manges de l'arbre de la connaissance, de mort, tu mourras. Mout, mout, c'est la mort, mourir. Met, c'est quelqu'un qui est mort. Hein? Alors, ici, ça veut dire pour nous faire mourir. Tu nous as fait sortir, monter. Il dit quand même monter, hein, parce qu'on descend en Égypte et on monte à Jérusalem. Hein. Donc, tu nous as fait monter d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir. Ici, ça, vous allez le reconnaître. Un bête avec un dagesh et un abref. Un même avec un dagesh et un ibref. Un dalet avec un sheva. Un bête avec un dagesh et un alon. Et un rèche. Voilà. Ça, je pense que vous allez reconnaître. Ba. Bamidbar. Bamidbar. Ça vous dit quelque chose ? Dans le désert. Dans le désert. Et Midbar, c'est la racine d'Abar, qui veut dire parler. Ça veut dire que dans le désert, Dieu parle. Et quelquefois, Dieu nous emmène dans le désert pour nous parler. Quelquefois, c'est le désert de la maladie. Quelquefois, c'est le désert d'autre chose. Mais Dieu parle dans le désert. Et souvent, d'ailleurs, quand on... C'est comme ça, c'est... Quand on est atteint de maladies ou de problèmes, souvent on est seul. Même l'entourage, il ne comprend pas tout. Et on est seul et Dieu parle à nos cœurs dans ces moments-là. Et c'est comme ça. Ah, complètement. Ben, il dit la promesse de Dieu, elle n'est pas de Dieu. Autrement dit, ce que tu as dit de la part de Dieu est complètement faux. Mais bien sûr que c'est grave, c'est pour ça parce qu'après ils vont accuser Moïse d'avoir ouvert la terre, comme si Moïse avait le pouvoir d'ouvrir la terre. Enfin, je sais pas moi, mais si Dieu a ouvert la terre, un tremblement de terre, ça s'est craqué, ils sont tombés dedans brutalement, ça s'est refermé. Mais vous rendez compte? Quel jugement! C'est effrayant, quoi. Hein. Quand t'es pris sous un éboulement, t'es encore vivant un petit moment, hein? T'as le temps de réfléchir, hein? C'est effrayant. Et alors, la deuxième chose, parce que ça, c'est la première chose pour laquelle il n'est pas content. La deuxième chose, donc, un kaf avec un dagesh et un ilon, un tiré, un tav avec un ibref, un sin, faites attention, le point est à gauche, un sin avec un sheva, un tav avec un dagesh et un alon. Resh avec un tseré, donc un ébref, et resh, de resh. Alors, on lit ce mot ki tis tarer. Qui tistarer? Alors, ici, la racine de ce mot, c'est sarar. Sarar, ça veut dire dominer, être le maître, gouverner, décider, régner. Donc il n'est pas content, Corée, qui est le cousin de Moshe, donc dans la famille des Lévites, il est au même niveau, hein. C'est son cousin, c'est la même génération, etc. Il n'est pas content et il dit, pour nous faire mourir dans le désert, que tu te poses en gouvernant, en gouverneur. Il n'est pas content que son cousin, il se prend pour le gouverneur. Mais qui c'est qui lui a dit de diriger ? C'est Dieu. Donc il ne veut pas reconnaître le ministère que Dieu a donné à Moshe. Donc il ne reconnaît rien, il veut, évidemment, il veut prendre le pouvoir. Ça arrive souvent, hein, ça. C'est l'esprit de Yavan qui s'est répandu dans le monde entier, y compris dans les églises. C'est l'esprit de Yavan, c'est la Grèce. Donc c'est l'esprit de compétition. C'est moi le meilleur, etc., etc. Tandis que l'esprit de Tzion, c'est l'esprit où chacun a sa place. Il n'y a pas de concurrence dans l'esprit de Tzion. On se complète les uns les autres. Alors, justement, moi j'avais préparé une étude que, d'ailleurs, je n'ai jamais mise en ligne, parce qu'elle est très dangereuse. Mais je vous explique en deux mots. C'est dans le livre de Zacharie, au chapitre 9. Au chapitre 9 de Zacharie, Dieu dit, en gros, je n'ai plus les termes exacts, je vais lever les enfants de Tzion contre les enfants, ou de Yavan contre les enfants de Tzion. Et il dit, je vais me servir d'Éphraïm comme une flèche et de Juda comme un arc. Bon, alors quand vous lisez ça de la bouche de Zacharie, vous dites qu'il y a un problème. Il est où le problème ? Parce que, en fait, Zacharie, c'est dans les années 500 et quelque chose avant Jésus-Christ. Or, en 722 avant Jésus-Christ, Éphraïm a été dispersé. Il n'existe plus. Il va y avoir une guerre des Maccabées plus tard, en moins 130 par là, si je ne me trompe pas. Et là, c'est Juda tout seul, il n'y a pas d'Éphraïm. Puisqu'Éphraïm est dispersé. Vous comprenez ? Donc, pourquoi est-ce que Zacharie parle d'Éphraïm et de Juda pour un conflit entre les enfants de Yavan et les enfants de Tzion ? Ben parce que c'est à la fin des temps que ça se passe. Parce qu'à la fin des temps, Éphraïm revient en terre promise. Éphraïm réapparaît. Et qui sait si parmi nous, il n'y a pas des enfants d'Éphraïm ? Toutes les étincelles. Et donc, il y a un conflit à la fin des temps. C'est pour ça que je n'ai pas voulu le mettre en ligne, parce que c'est trop précis, il y a beaucoup trop de choses. Allez voir un peu dans les livres des Maccabées, vous verrez, vous comprendrez ce que c'est que l'esprit de Yavan. Eh bien, tout ce qui se passe actuellement, c'est l'esprit de Yavan. Toutes les lois qu'on invente maintenant, actuellement, dans les gouvernements, c'est l'esprit de Yavan. Et donc, il y a un conflit spirituel entre l'esprit de Yavan et l'esprit de Tzion. L'esprit de Tzion, c'est la Torah. C'est la Torah. La Torah de Dieu, la Torah de Yeshua. Donc, il y a un conflit final, et Zacharie l'a annoncé. Mais il faut lire entre les lignes. Il faut comprendre qu'Éphraïm, il n'existait plus à l'époque de Zacharie. Donc c'est à la fin des temps que ça se produit. Et c'est maintenant. Ça, c'est prophétique. Alors, le texte continue. Que tu te poses en gouverneur sur nous, te poser en gouverneur. Donc, il n'est pas content de ça. Et on continue le deuxième verset, parce que c'était 13 et 14. Comment ? Ça va ? Alors, ça commence par un Aleph, avec un A bref et un P final, ou plutôt un F. Ce petit mot-là, il se lit AF. D'accord ? Et ça veut dire vraiment. Lamed avec un O bref et Aleph, petit mot que vous connaissez, l'O qui veut dire ne pas, c'est la négation. Donc vous voyez, il va insister le gaillard. Vraiment, ne pas, Aleph. Avec un Sheva coloré en ségol, Lamed. Et puis Eret. Non, ça je me suis trompé, là c'est un Sheva, un ségol tout court. Donc vers un pays, vraiment ne pas vers un pays. Donc non seulement il dit tu nous fais monter d'Égypte un pays où coule le lait et le miel, pour nous emmener dans un pays où il ne coule pas le lait et le miel. Donc on a Zavat. Ne pas vers un pays coulant ou ruisselant de lait et miel. Alors, je voudrais continuer simplement comme ça. Donc, et tu nous as fait venir à Viotanou. Et tu nous as donné à nous un patrimoine de campagne et vignoble. Est-ce que les yeux des hommes, eux, tu arracheras, ne pas nous montrons. Ça, c'est la traduction mot à mot. Alors, on va le lire dans une traduction un petit peu plus civilisée. Est-ce peu que tu nous aies fait sortir d'un pays ruisselant de lait et de miel pour nous faire mourir dans ce désert ? sans prétendre encore t'ériger en maître sur nous, certes, ce n'est pas dans un pays abondant en lait et en miel que tu nous as conduits, ce ne sont champs ni vignes dont tu nous as procuré l'héritage. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Donc, les paroles de Corée contredisent toutes les paroles de Dieu. C'est un petit peu ce qu'avait fait Lot quand il avait choisi la vallée d'en bas. En levant les yeux, il avait vu en bas. Et c'est le même esprit, donc les mêmes problèmes derrière. Alors, on se pose la question maintenant, mais c'est quoi dans la Bible le lait et le miel? Alors, ici, il y a Rabbi Eliezer qui dit « Le lait, le sucre des fruits, le miel des dattes. » Rabbi Akiva dit « Le lait, du lait bien évidemment, comme il est écrit. En ce jour, les montagnes ruisselleront du jus de la vigne. » Il associe le lait et le jus de la vigne. Les collines feront couler du lait. Joël 4,18. Le miel des forêts, comme il est écrit dans 1 Samuel 14,26, en arrivant dans le bois, le peuple vit ce miel ruisselant. À l'époque biblique, il n'y avait pas de ruche pour l'élevage des abeilles. Donc, il pouvait donc y avoir des abeilles sauvages, ça c'est possible. Et pour comprendre l'écriture, évidemment, il faut aller voir les mots hébreux. Parce que si vous lisez dans le texte français, vous n'allez rien comprendre. Ici, dans Deutéronome 32, 13, il est dit, il a fait monter victorieusement sur les hauteurs de la terre et jouir des produits des champs, la nourrit avec du miel des rochers, avec l'huile de la roche pierreuse. Alors ici, le mot miel est associé à l'huile. Autrement dit, vous voyez que l'huile de la roche, ça peut être le fioul, mais ça peut être aussi autre chose, parce que quand on plante des oliviers, ça pousse dans la roche, et ça donne l'huile d'olive. Et donc, ici, le miel qui sort des cailloux, c'est un olivier qui va donner des olives et de l'huile d'olive. Donc, vous voyez que le mot miel, et le lait et le miel, ça peut être beaucoup plus vaste que ce qu'on a l'habitude de comprendre. Avec les mots français, vous vous arrêtez au lait de vache et puis au miel. Alors, pour parler de miel, je vous rappelle que Samson, il avait mangé du miel dans le corps d'un lion. Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le pays des Philistins. On a vu tout à l'heure que les Philistins descendent de Mitzraïm, de l'Égypte. En Égypte, vous avez des sphinx partout. Et ça représente le dieu local, les dieux locaux. Autrement dit, pour pouvoir conquérir le pays des Philistins, il fallait pouvoir tuer le dieu local qui est représenté par un lion. Et après, dans le lion, vous avez le lait et le miel. Vous voyez ? C'est les dieux, c'est comment on appelle ça, les esprits locaux. Vous avez des régions où il y a des esprits locaux qui dominent. Eh bien, chez les Philistins, c'était l'esprit du sphinx, l'esprit du lion. Et donc, il l'a mis à mort. C'est spirituel, hein, c'est un combat spirituel, et alors il peut profiter du miel. Il faut comprendre ces choses-là par... Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il ne faut pas que je m'en mêle. Hein. Quelle heure il est ? Qu'est-ce qu'il y a en Israël ? Oui.
La manne, il n'est pas dit à un moment donné que c'était blanc, blanchâtre, parce que tout à l'heure tu as dit, tu as traduit le.
Je ne sais plus. Il faudrait aller voir les textes.
Ah, d'accord.
Mais c'est vrai que ça avait un peu le goût de miel, la manne.
Oui.
Oui. Alors, qu'est-ce qui pousse en Israël ? Là, on va prendre Deutéronome 8:8. Alors, Eretz, à force, vous allez savoir l'écrire, Eretz. Eretz. Le mot qui suit, c'est un chet, avec un tête et un dagage dedans, un chet avec un i bref. Un tête avec un dagesh et un a long et un he. Alors, ce premier mot. Chita. Chita, c'est quoi ? C'est du blé, du froment, ou de la farine de froment, de blé. Donc ces premiers fruits, on va voir les fruits d'Israël, il y en a combien dans le verset ? Il y en a sept. Donc, froment. Le deuxième, un ou. Avec un sin, attention, le point est à gauche, Sheva, Ein avec un O bref, Resh avec un A long, et. Ou. Seora. C'est quoi Seora ? C'est et l'orge. Froment et orge. Où ? J'ai oublié quelque chose ? Guimel avec un ségol, un P ou plutôt un F avec un ségol et un nun final. Ça, vous le connaissez peut-être. Ou Geffen. Geffen. C'est un F, ça.
C'est l'autre qui a un
Qu'est-ce que j'ai fait?
C'est pas grave.
Ah oui, pardon. C'est un schéma. Wegefen. Gefen, c'est la vigne. Donc, froment et orge et vigne. Alors, ensuite, le v'là le où. Où. Tav. Avec un sheva. Aleph. Avec un hébref. Nun. Avec un long. Et. Out et na. Ça, c'est le figuier. Un vav avec un sheva. Un resh avec un i. Bref. Un même avec un dagesh dedans et un au long et un nun final. V. Rimon. Le rimon, c'est quoi d'après vous? Souvenez-vous des sept fruits d'Israël. Grenadier. Et là, vous avez l'atnar. Vous avez l'atnar, donc on change un petit peu là. Et on continue. Eret, alors je ne vais pas le recopier, a tiré. Zain avec un hébref, yod, tav. Donc, Eretz, c'est un pays. Et là, vous avez le mot zeit. Zeit, c'est des oliviers. Olivier a, je le mets en dessous, shin, avec un sheva, avec un ségol, pardon, même, avec un ségol, et nun final. Zeit, shemen. Shemen, c'est quoi? C'est de l'huile. Olivier à huile.
Pourquoi c'est précisé?
Parce qu'il y a des oliviers à olive qu'on mange. Et des oliviers où on fait de l'huile. Je pense qu'il doit y avoir ça. C'est peut-être pas les mêmes, je sais pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le peuple d'Israël est comparé à un olivier et que pour tirer l'huile, eh ben, il faut toujours les écraser. Et c'est ce qui se produit depuis des siècles et des siècles. Et le dernier, et vous allez voir, c'est un fruit, parce qu'on parle ici des fruits. où alors, un ou, un dalet avec un sheva, un bet avec un long et un shin. Ou des vaches. Ou de vaches. Et miel. Donc il est compté parmi les fruits. Alors, je vous ai fait un tableau avec les fruits. Hein. Le froment, l'orge, la grappe de raisin, le figuier, la grenade, l'olivier, donc l'huile, et le miel. Et on a retrouvé des pièces de monnaie où on voit d'un côté la tête de l'empereur. Alors il y a Vespasien et Titus, donc deux pièces différentes. Et de l'autre côté, vous trouvez un palmier dattier, donc pour le miel de date. Donc vous voyez, avec d'un côté un Romain debout et un Juif accroupi parce qu'il est soumis aux Romains. Donc sur les pièces de monnaie, c'était comme ça. Alors, ici, j'ai inversé dans nombre 13-23 que je vous lis en français. Arrivés à la vallée d'Eshkol, ils y coupèrent un sarment avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche, de plus quelques grenades et quelques figues. Donc il fallait le porter au moyen d'une perche. Je vous signale que des vignes d'autrefois, elles étaient énormes. Et il est dit que dans le temple à Éphèse, le temple de Diane, c'était à Éphèse, eh bien, il y avait un escalier, c'était une vigne qui avait été taillée en escalier. Ouais. On dit ça. Alors, ici, maintenant, alors, le miel de date se dit silan. Et ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est, on va pas le faire en hébreu, mais dans Deutéronome 32:14, on lit « Avec la crème des vaches, le lait des brebis, la graisse des agneaux, les béliers de Bazan et les boucs, la moelle exquise du froment, et tu buvais le sang vermeil du raisin. » Eh bien, ici, c'est le même mot, le même racine, pour dire lait, graisse, moelle. Autrement dit, ce qu'on appelle le lait, c'est le meilleur de tout. Donc, le meilleur du vin, c'était le vin blanc qu'on faisait cuire pour qu'il puisse se conserver, et on appelait ça du lait. C'est comme ça que Sisera, vous vous rappelez de Sisera, qu'est-ce qu'il dit ? Il demandait de l'eau, elle lui offre du lait. Dans un vase précieux, elle apporte de la crème. Mais là, il faut comprendre que c'était du vin blanc cuit. Il était bourré, le gaillard. Donc, il s'est endormi et elle a enfoncé un pieu dans sa tête. Vous comprenez? Donc, tout ça, il faut pouvoir le comprendre à partir des Écritures. C'est, on dit du lait dans la traduction française, mais c'était du vin blanc. Eh oui. Donc voilà. Donc, au final, ce qui est le meilleur est blanc souvent. C'est pour ça qu'on l'appelle le lait. Donc vous avez la farine, le vin, l'huile. L'huile est appelée le lait aussi. Et le miel, ça peut être du miel des abeilles, de dattes, ou du miel de figues aussi. Ouais. Du miel de figues, ça coule.
Oui.
Ça coule des arbres. Oui.
Dans Cantique des Cantiques, je t'ai fait entrer dans la maison du vin, etc. Il parle aussi de boire du. Il y a le lait et le vin qui sont presque associés dans.
C'est possible. J'ai pas été voir. Oui. Et vous voyez que c'est beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Et voilà, c'est le pays du Seigneur. Alors, ben, je vous ai mis à la fin une belle image. Comme ça. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mon sentier. Et puis, pour les enfants, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Le miel, c'est aussi les Écritures. Voilà. Et on avait expliqué dans la petite vidéo que on écrivait dans du miel ou avec du miel. Et puis après, les enfants, ils léchaient. Voilà. Il mangera la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Et voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être venu malgré ce froid et d'avoir tenu le coup vivant jusqu'à la fin. Amen. Tu peux y aller, c'est là.